La Saint-Valentin est un moment idéal pour partager avec vos proches. Damava vous permet de tendre la main malgré la distance et l'isolement. Offrez des soins à domicile avec les cartes cadeaux maintenant disponibles sur damava.com. Damava, une meilleure qualité de vie chez soi.
Choix 98.1.
Choix 98.1 Radio X.
Da.
Marceau, le soir, avec Marceau.
Radio X.
La dernière entrevue n'est pas passée inaperçue. Merci de nous écrire au 418-670-9098. 418-670-9098. 1-877-440-2464. Stéphane Leblon, de chez Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Salut!
Salut Yannick.
Comment vas-tu?
Ça va numéro un.
Comment va ton COVID?
Ça va bien, le COVID. Nous autres, on a été chanceux. Il n'y a personne dans la famille proche qui l'a pogné, là, mais on faut rester vigilant aussi.
Oui, monsieur. Puis, hey, ça a-tu été compliqué, job, mettre toutes les dispositions en place?
Ben, c'est le coup de s'installer, mais tu sais, la minute que t'as pris que les plexiglas sont installés, puis que t'as pris l'habitude, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, de désinfecter la table, la salle de conférence, puis les chaises, la salle d'attente, etc. Là, après ça va bien. C'est un coup de s'habituer.
Voilà. Avez-vous mis des petites flèches à terre pour pas que les individus se croisent dans le bureau?
Non, ben on s'organise pour qu'il y ait quand c'est il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qu'il soit tout seul.
Ouais.
Ils sont meilleurs que nous. Nous, on a de besoin.
Oui, nous, on a de besoin, mais on est des animateurs radio, c'est normal.
Ouais, mais même vous, là, pour de mémoire, là, c'est mêlant, même chez vous, là, les flèches à terre.
Oui, c'est vrai.
Ouais, mais si t'avais vu le gars qui les a posés, tu comprendrais. Tu poserais pas de questions. Faut juste que tu choisis un sens puis tu vas de ce sens-là. Mais tu vois, j'ai été à l'épicerie, c'était aujourd'hui ou hier. J'ai été à l'épicerie puis j'étais face à une rangée. Puis à un moment donné, il fallait que je revienne sur mon pas. Puis Stéphane, j'ai fait une erreur dramatique.
Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai reviré mon panier de bord.
Oh!
Alors, vers?
Et là, il y a une dame qui est arrivée.
Ben là.
Thérèse, toi, 98 ans.
Monsieur, vous êtes pas du bon bord!
J'étais du bon bord. C'est juste que c'est je suis revenu un peu sur mes pas parce que je cherchais le choix du président.
Mais le truc, là, c'est il faut pas que tu tournes ton panier de bord, tu recules en faisant
oui, c'est
pip, 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 pip. Là, t'es correct.
Ouais. Ah, cette folie-là. Hein. Les gens paniquent énormément. Dans les ascenseurs, là, c'est rendu que tu dois être absolument tout seul, les ascenseurs, sauf si t'es avec quelqu'un de ta bulle. Ce qui fait en sorte que quand tu habites dans un édifice ou tu vas dans un édifice à bureau, exemple, mm-hmm. où il y a plusieurs bureaux puis plusieurs étages, c'est long en maudit avant d'avoir ton ascenseur tout seul. Imagine-toi à l'hôpital de Lévis, Steph.
Ben ouais.
Les ascenseurs vont à 1 km/h, ça prend 3 heures, sont tout le temps jam-pack là-dedans. Imagine-toi si on avait ces mêmes règlements-là d'une seule personne ou d'une seule bulle, tu sais. Ce serait hallucinant. Mais c'est pas grave, à un moment donné, on va s'en sortir. Ce soir, on aborde divers sujets. On explique pourquoi les syndics ne peuvent pas acheter de biens dont ils ont la responsabilité dans le cas d'une faillite.
Oui, il y a une espèce de légende urbaine là, qui fait croire que les syndics là, ils peuvent acheter bien des affaires à pas cher dans les actifs là, qu'ils administrent. Mais ça, il n'y a rien de plus. Ça a peut-être été vrai là, dans les années 60 où c'était plus rock'n'roll, puis il y avait beaucoup de syndics qui payaient 25$ pour obtenir une licence, puis qui y géraient probablement pas dans l'esprit de la loi. Mais dans le code de déontologie là, qui est enchâssé dans les règles de la loi sur la faillite, il y a un article il y a une série d'articles qui traite du code de déontologie, dont un qui traite spécifiquement de ça. Article 42 qui dit « Le syndic n'achète ni directement ni indirectement les biens d'un débiteur pour lequel il agit dans le cadre d'une activité professionnelle. » Alors, si j'ai quelqu'un, un commerce en faillite ou en proposition, soit les biens des actifs régis par la loi et auxquels il n'est pas commis, à moins que ces biens ne soient achetés en même temps qu'ils sont offerts au public à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public. » Puis évidemment, là, dans le cours normal des affaires. Ça veut dire que même moi, je pourrais pas acheter un bien qui est mis en vente ou qui est, fait partie de l'actif qu'un confrère gère. Puis okay. Le Joe Blow syndic, Je pourrais pas acheter un immeuble de, ben, évidemment, sauf les exceptions que j'ai mentionnées.
Ouais. Mais tu sais, il y a une logique à ça, parce que je veux dire, l'individu qui va te voir qu'il y a des troubles financiers est en position de faiblesse, là. Tu sais, tu peux pas profiter d'un individu qui est en position de faiblesse, là, peu importe qui tu es.
Et plus, c'est à ça que sert le code de déontologie. Puis l'article suivant, il va plus loin, il dit, regarde, tu peux pas vendre indirectement ou directement à tes employés ou un autre syndic peut pas vendre à tes employés indirectement ou directement des biens que sous sa charge. Fait qu'ils ont éclairci ça. Ils ont mis ça noir sur blanc afin d'éviter les abus qu'il aurait pu avoir dans le passé.
Mais s'ils l'ont fait, c'est probablement exactement. C'est ça. Il y en a qui ont malheureusement abusé. Là, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. OK.
Définitivement.
Comment vous faites comment vous y prenez pour vendre les biens dont vous prenez possession? Tu sais, je te dis ça comme ça parce que tu me l'avais souligné, là, les immeubles résidentiels puis commerciaux.
Ben, premièrement, le syndic, quand il dépose une faillite où il y a des biens, peu importe la nature des biens, ben, avant de les vendre, il faut qu'il en fasse un inventaire, qu'il ait évalué sa valeur, la valeur de ces biens-là. Mais, sauf exception, il ne peut pas les vendre avant l'assemblée des créanciers, qui a lieu généralement 3 semaines après la date de la faillite. Parce que c'est lors de l'assemblée des créanciers qu'il est confirmé dans ses fonctions. Mais il peut avoir des exceptions. Si à un moment donné, il y a une fruiterie ou un magasin de légumes ou un marché d'alimentation qui fait faillite, ben on n'attendra pas 3 semaines avant de vendre les biens parce qu'il y a du périssable. Alors, le syndic peut liquider les biens qui sont périssables. Ou encore, il peut arriver un cas où il y a une faillite qui est déposée, le syndic reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser, puis la prise de possession ou la signature de l'acte, c'est avant 3 semaines. Alors, le syndic, à ce moment-là, il peut requérir de la Cour une autorisation pour vendre les biens avant l'Assemblée des créanciers. Il fournit à ce moment-là les évaluations qu'il faut. Il répond aux questions de la Cour. Puis, s'il y a des créanciers importants, ben, il va les mettre en cause. S'ils ont des choses à dire, ils vont pouvoir le dire devant le tribunal. Mais de façon générale, là, le principe qui va diriger le syndic quand il va vendre ces biens-là... Ben, il y a trois principes. Il faut l'efficacité, la transparence, puis que ça respecte le code de déontologie. Fait que les petites ventes en cachette, ça, c'est à proscrire. Alors, le syndic, si, dans l'exemple que tu disais, il y a des immeubles résidentiels ou des immeubles commerciaux, la façon la plus simple, la moins compliquée pour le syndic, c'est de donner un mandat à un agent d'immeuble. Parce que l'agent d'immeuble, il a son réseau de contacts, il connaît l'immeuble, il va l'examiner, puis il va dire, ben regarde, en dedans de 90 jours ou 180 jours, je peux te vendre ça en tant de piastres puis tant de piastres. Tu regardes ça, puis si ça fait ton affaire, tu lui donnes le mandat.
OK. Mais comme l'individu est en situation de faillite, là, est-ce qu'il doit vendre l'immeuble résidentiel? En fait, est-ce que vous devez vendre l'immeuble résidentiel sans garantie légale?
Oui, le syndic, il vend sans garantie légale, absolument. Comme quand tu as une succession qui vend, on garantit même pas que la cabane est là. Genre. mais ça sous-entend que faut escompter un petit peu le prix de vente. Là. On vend sans garantie même légale, alors l'acheteur prudent, il va payer un petit peu moins que le prix normal du marché, parce que s'il arrive une bad luck, ben faut... La différence de prix, là, ça va lui permettre de se couvrir un peu s'il y a un problème. Sauf que dans un marché comme aujourd'hui, c'est quand tu vends un bungalow à Charlebourg ou à Val-Belaire ou à dans l'ouest de Québec, ça va se vendre le même prix que ce soit une vente par un syndic ou un particulier ou n'importe qui. Là, il y a tellement de demandes pour les immeubles résidentiels que ça joue pas. Mais le syndic vend quand même sans garantie même légale.
OK. Question qui vient de rentrer. Là, il s'est trompé de nom. Là. Il t'appelait Marc, là, mais... Bonsoir, Steph. J'ai l'intention de faire faillite dans les prochains mois. Rien ne va plus. J'ai perdu mon emploi en raison de la COVID. Je n'ai pas réussi à retrouver un emploi qui était à la hauteur du salaire que je gagnais. Maintenant, les dettes s'accumulent. Mon problème étant que ma conjointe peut continuer à payer sa moitié de maison, mais pas moi. Comment ça va fonctionner?
Ben, si la personne fait faillite, probablement on va trouver s'il n'y a pas d'autres alternatives que la faillite. Là, ça peut être un cas aussi où il pourrait faire une proposition de consommateur. Mais s'il n'y a pas moyen de présenter de proposition ou si tu en présentes une puis ça marche pas, alors le syndic, il va regarder s'il y a un intérêt dans la demi de l'immeuble de monsieur. Alors, si la maison vaut 500 000, puis il y a 400 000 piastres d'hypothèque dessus, fait qu'il y a 100 000 piastres d'équité, fait que c'est roughement là, 50 000 chaque. Alors, le syndic, il peut dire, ben regarde, l'autre copropriétaire, la conjointe, si elle veut racheter l'intérêt du syndic pour 50 000 ou n'importe quel prix négocié entre les deux, ça va permettre à la personne de conserver l'immeuble. Ou encore, on va dire, ben regarde, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur peut t'avancer ces sommes-là pour que tu rajettes l'intérêt du syndic dans l'immeuble. C'est quelque chose qui peut se faire aussi, puis il va conserver l'immeuble à ce moment-là.
OK. Et pour un véhicule, est-ce que c'est la même chose?
C'est la même chose. C'est le même principe. Ben, tu sais, parce que le syndic, quand il ramasse des demi-maisons, des demi-véhicules, c'est toujours vente. C'est toujours tough de vendre de la moitié de quelque chose. Alors, à ce moment-là, tu peux faire des règlements intéressants. Le syndic, ça ne l'intéresse pas généralement de prendre des procédures où ça va coûter cher de frais d'avocat, puis l'issue peut être incertaine. Là. Alors, le syndic, il va favoriser un règlement rapide, quitte à laisser quelques piastres à la table.
Question de Martin. Qu'est-ce qui explique que les chiffres sont très bons par rapport aux gens qui vont voir un syndic de faillite? Semblerait qu'il y en a beaucoup moins que les dernières années. Je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, deux semaines, Steph.
Ah, c'est plus de 50 % de diminution de faillite parce que, veux pas, depuis le 15 mars ou 16 mars de l'année dernière, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial aussi, ils ont investi là des centaines de milliards de dollars dans l'économie pour qu'elle puisse continuer de rouler. Alors ça s'est fait sous la forme de PCU, aujourd'hui la PCRE, les subventions salariales, on subventionne jusqu'à 75 % des salaires d'une entreprise. On peut subventionner le loyer commercial. Il y a différents programmes pour différentes sphères de l'économie. De sorte que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de faillites, autant d'individus que d'entreprises, c'est que c'est artificiel. Le gouvernement maintient artificiellement ces entreprises, ces individus-là hors de l'insolvabilité. Le problème, c'est que quand ces subventions-là, ces prestations-là vont arrêter, bien là, ça va être un raz-de-marée, là.
Ce que j'allais te demander, donc, quand ça va être les impôts, enfin, on va voir une augmentation?
Ah, bien, ça, c'est une chose. L'impôt qui n'a pas été prélevé pour la PCU, mm-hmm. Alors ça peut créer des comptes d'impôts importants. On a parlé là, il y a deux semaines ou quatre semaines. Là. Ça peut entraîner la faillite ou l'insolvabilité de plusieurs personnes. Si tu n'as pas mis les sommes de côté ou si tu en devais déjà pour les années antérieures, ben ça peut te causer des gros problèmes.
Voilà, tout simplement. Parmi les autres questions qui sont rentrées, là, celles qui sont des plus pertinentes... Okay, est-ce que le gouvernement, selon ce que tu en sais, Steph, est-ce que le gouvernement va continuer d'aider les entreprises après la pandémie pour que les entreprises puissent se relever un peu? Est-ce qu'il y aura des programmes?
Ben, il va sûrement avoir des programmes, là. Ottawa n'est pas un chèque prêt là, d'aider les entreprises. Là. Sauf qu'il va falloir trouver des façons de les aider autrement qu'en leur envoyant de l'argent. T'sais, si, mettons, ils diminuent les taxes sur la masse salariale, ça, ce serait une façon d'aider les entreprises, puis de garder les meilleures entreprises. Ou diminuer l'impôt corporatif. Alors, si tu diminues l'impôt corporatif, les entreprises vont dire, ben, regarde, on va être plus efficace, on va faire plus d'argent, fait qu'on va payer moins d'impôts, fait que ça va être plus le fun, ça va nous inciter à être plus efficace. Mais le gouvernement fédéral, je sais pas, ils ont annoncé là, aujourd'hui ou hier là, que ceux qui ont eu de la PCU en trop,
ouais, les travailleurs autonomes,
ils n'auront pas à le rembourser. Puis ça, le titre de l'article du Journal Le Québécois, il était peut-être pas tout à fait exact là. Parce que l'idée derrière ça, c'est qu'il fallait avoir 5 000 piastres de revenus bruts de l'année 2019, l'année d'avant. Mm-hmm. Or, c'était pas clair si c'était net des dépenses. Alors, si tu avais, mettons, des travailleurs autonomes, tu avais 8 000 piastres de vente puis 4 000 piastres de dépenses, ben c'était 4 000 piastres bruts avant de payer les impôts.
Ouais.
Là, tu qualifiais pas pour la PCU. Mais la personne a dit, ben regarde, Il parle de 8000 piastres brutes. Alors, moi, comme c'est plus que 5000, je qualifie. Alors, c'était pas clair dans des programmes qui sont faits à la dernière minute, là, ou très rapidement, là. Alors, c'est ça qu'ils ont dit, ben, plutôt qu'éviter de s'embarquer dans des litiges qui vont coûter plus cher que d'autres choses, pour les gens qui, de bonne foi, ont fait cette erreur-là, ben, on les écœurera pas avec ça. C'est peut-être une bonne chose.
Question de Michel. Est-ce qu'on peut aller en proposition pour des dettes d'impôts?
Oui, définitivement. L'impôt, elle n'a pas de statut particulier, sauf quand c'est une entreprise qui doit des déductions à la source, là où il faut que ça soit payé à 100%. Mais un individu qui a des dettes fiscales, qui a des dettes des cartes de crédit ou des choses comme ça, il peut aussi faire une proposition. Puis le gouvernement, il peut voter pour ou contre la proposition, puis participer au vote comme n'importe quel autre créancier.
Une entreprise qui n'a pas versé ses taxes qu'elle a perçues, Steph, est-ce que ça peut embarquer dans une faillite, ça?
Oui, ça embarque dans une faillite, ça, si elle doit de la TPR, de la TVQ, des déductions à la source. Sauf que, comme ça, ce type de dette-là, c'est une responsabilité personnelle des administrateurs de l'entreprise. Ben, le ministère du Revenu va te dire, ben, regarde, t'as fait faillite, alors la compagnie, elle devait 100 000 piastres de TPS TVQ. Alors, faut que tu nous payes ça parce que c'est une responsabilité personnelle que t'as. Pour ce qui est des déductions à la source, ça a un caractère particulier, ça bénéficie d'une super priorité. Alors, ça passe même avant le banquier puis les honoraires du syndic. Alors, si t'as une entreprise où il y a 100 000 piastres d'actifs, puis elle doit 25 000 piastres de déduction à la source, mais avant que le syndic se paye puis que le banquier puisse récupérer quoi que ce soit, il faut qu'on paye les déductions à la source.
Écoute, c'est une question de la semaine dernière. Puis là, je vois de mémoire, c'était une Anna qui nous écrivait, puis j'ai pas eu le temps de te poser la question. Ce qu'elle a demandé, c'est qu'elle, elle était travailleuse autonome en 2020. Malheureusement, lorsqu'elle a passé en 2021, elle a été malade, ce qui fait en sorte qu'elle a pas pu travailler. Puis le gouvernement lui demande encore des sommes d'argent.
Des sommes d'argent pour les impôts de 2020 ou de...
Ben, j'imagine que comme elle est travailleuse autonome, c'est...
Ah, des acomptes provisionnels.
Des acomptes provisionnels, exactement. Puis, ce qu'elle demandait la semaine dernière, c'est comment elle peut faire pour verser cet argent-là si elle l'a pas, mais elle a l'intention de recommencer à travailler dans les prochaines semaines.
Ben, les acomptes provisionnels, c'est pour... c'est une portion de ce que tu penses que tu vas payer comme impôt basé sur l'année d'avant, là. Mais la seule pénalité, c'est que si tu fais pas les acomptes provisionnels, puis tu dois de l'impôt, ben tu vas payer une pénalité puis des intérêts.
Tout simplement.
C'est juste ça que ça va faire.
Toi, tu lui conseilles juste d'attendre, de recommencer à travailler, puis après ça, recommencer à payer ses trucs?
Ben, elle va faire ses déclarations d'impôt là, avant le 30 avril. Elle va voir si elle en doit ou si elle n'en doit pas de l'impôt. Puis si elle en doit de l'impôt, ben, puis elle n'a pas recommencé à travailler, ben elle peut prendre entente avec le ministère du Revenu. Puis si le montant à payer est trop élevé, ben là, il va falloir envisager d'autres solutions comme une proposition de consommateur ou quelque chose dans ce style-là.
Ouais, puis by the way, dans les prochains jours, on va être dans nos fameux papiers d'impôt. Là, pour ceux qui travaillaient à la maison, qui devaient travailler à la maison, comme la plupart vous le faites actuellement, là, ben vous allez avoir des déductions possibles si vous avez travaillé à la maison en 2020. Parce que pour ce qui est du télétravail, fait que si vous êtes acheté un ordinateur, si vous êtes acheté de la papeterie, si vous êtes acheté une imprimante et tout ça, ben il va y avoir un formulaire spécifique justement pour les gens qui faisaient du télétravail qui va être disponible sur le site du gouvernement.
Oui, puis il va y avoir deux façons de calculer, d'après ce que j'ai compris. Là, soit que tu es avec tes factures ou encore tant de piastres par jour, là, entre telle date et telle date, là, c'est ce que la plupart des gens vont privilégier.
Fait que le gouvernement, on va trouver un moyen de ne pas avoir envoyé trop d'argent. Fait que d'après moi, il devrait s'organiser avec ça. Il ira pas nous en chercher dans les poches l'année prochaine, non?
Ouais, le gouvernement va trouver une façon de venir en chercher plus dans nos poches, là. Parce qu'il est surtout pas question qu'ils coupent les dépenses. Ils n'ont jamais fonctionné comme ça.
Et le ministère du Revenu, Stéphane, c'est notre seul ami parce qu'il va se souvenir de nous même après notre mort.
Ah oui, définitivement. Puis dans nos ventes, nos façons de vendre les biens, là, on avait commencé tantôt, on parlait de ce qui s'appelle l'immobilier, on donne les mandats des agents d'immeubles. Ce qu'on voit aussi, c'est quand tu te ramasses avec des véhicules, des équipements commerciaux, des fonds de commerce ou des terrains de moindre valeur, là, le syndic, il peut publier dans le journal ou sur Internet un appel d'offres public. Il dit, ben garde les biens, si vous venez les voir, ils sont à, prenez rendez-vous avec le syndic, on va ouvrir les offres sur tel lot, tel lot, tel lot. Puis si le prix a de l'allure, selon le syndic, on va vendre là à l'offre, à l'offrant là, la meilleure offre.
Okay.
Il peut y avoir aussi des appels d'offres privés. Cette année, tu ramasses un commerce en faillite, puis les seuls acheteurs potentiels, c'est trois compagnies en Amérique du Nord. Ben, tu feras pas un appel d'offres public dans le Journal Québec, ça donnera rien. Fait que tu vas inviter les trois acheteurs potentiels de ces biens-là à soumissionner, à venir les voir. Comme ça, tu gagnes du temps, puis ça, ça permet d'être plus efficace aussi. Il y a les encans privés, les encans publics. Alors, quand oui. on ramasse des véhicules, ce qui est le plus simple, là, c'est...
Moi, je suis là-dessus, Steph. Pour ce qui est des encans du gouvernement, là, ils m'envoient un courriel, puis ils me disent « Ah, ils vont avoir un encan bientôt. » Puis on va sur le site Internet du gouvernement, puis ils nous mentionnent les véhicules, exemple, qui vont être mis en vente cette journée-là.
Comme mon camion de pompier, oui.
La... Tu l'as encore?
Non, je ne l'ai pas. Ma femme ne voulait pas que j'achète. Non, mais nous autres, on peut les envoyer à des encans là, comme à Adessa, ça arrive sud, là, où il y a des commerçants qui se battent pour ça. C'est facile, c'est efficace, puis ça coûte pas cher, puis c'est toujours bien fait. On peut faire aussi, quand tu ramasses un commerce, puis tu dis, ben regarde, on est dans une bonne saison pour liquider ça, alors on peut engager un liquidateur ou engager le staff sur place pour liquider nous-mêmes. On fait une grande vente de faillite. Évidemment, il faut qu'il y ait beaucoup de stock. Ça vaille la peine parce que c'est des coûts extrêmement élevés, les coûts de surveillance, les coûts de la publicité. Quand c'est bien fait, ça vaut la peine. On peut vendre de gré à gré aussi. Le syndic, il prend quelque chose en faillite, puis il y a quelqu'un qui dit, quand j'ai su que tu étais syndic à telle faillite, je suis très intéressé. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour regarder ça? Alors, une fois que le syndic a fait l'inventaire des biens, il a obtenu une évaluation, il n'est pas obligé de passer par un appel d'offres, en autant, évidemment, que le processus est transparent. Ça rencontre le code de déontologie, puis c'est efficace. Il peut vendre de gré à gré. On peut vendre aussi aux faillis, un failli qui désire racheter son véhicule. Alors, on peut s'entendre avec lui. On a une évaluation du véhicule, c'est facile avec les black books et ces choses-là. On évalue le prix, puis on s'entend sur des modalités pour racheter ça.
Attends un peu, il doit faire faillite parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'est plus capable de répondre à ses fournisseurs. Puis là, il peut racheter son propre véhicule, mais avec quel argent?
Ben c'est ça. Quand une personne fait faillite, c'est pas qu'elle a plus d'argent. C'est qu'elle a plus de crédit. Elle a épuisé son crédit. Ça fait longtemps qu'elle a plus d'argent.
Ouais.
Alors, si elle veut racheter son véhicule, mettons le véhicule, il vaut 2 000 $.
Ouais.
Ben ça veut dire qu'il peut dire, regarde, tu peux racheter le véhicule. Moi, que le véhicule que je l'envoie, ça arrive sud pour être vendu à l'encan, ou que je le vends le même prix à toi, c'est la même argent. Les créanciers vont récupérer la même argent. Alors, on peut dire que ça va être 2 000 $, mettons 200 $ par mois pendant 10 mois. On signe une convention à cet effet-là. Il paye son 2 000 $, puis cet argent-là est distribué entre les créanciers.
OK, je comprends.
Puis, il peut avoir aussi, le syndic peut vendre à des personnes liées. Tu as une entreprise qui fait faillite. L'administrateur de cette entreprise-là repart avec deux de ses amis, une autre entreprise dans le même domaine, puis dit au syndic, gars, moi, je le connais, le stock, je connais la machinerie, je connais la liste de clients, le site Internet, le logo, etc. Je voudrais acheter ça du syndic. Alors, comme c'est une personne liée, parce que c'est l'ancien administrateur de la compagnie qui est en faillite, le syndic peut quand même vendre, mais dans ces cas-là, il doit avoir une autorisation de la Cour pour procéder à cette vente-là. Puis c'est les biens qu'on vend, là, ils notent de toutes sortes, hein. C'est des noms de domaine, site Internet, on vend des chevaux, des fois, n'importe quoi, là, toutes sortes d'affaires, des actifs corporels, incorporels. C'est très varié comme catégorie d'actifs.
Stéphane Leblond, c'est toujours un plaisir de se jaser. On se rejase dans 2 semaines. Je te souhaite de passer une belle soirée. Puis on lâche pas, on va voir la lumière au bout du tunnel à un moment donné.
En espérant que ce ne soit pas un train.
T'as-tu ton vaccin, Steph?
Non, je suis trop jeune, moi.
Tu dois être aveugle, parce qu'avec les catégories d'âge, là, d'après moi, t'es sur le bord, là.
Non, je suis trop jeune, Ça va être au mois de juillet l'année prochaine.
Salut, mon ami.
Salut.
Bye, Stéphane Leblond de chez Leblond et associé syndic autorisé en insolvabilité. Go syndicleblond.com. 19h03, on revient tout de suite.
Marceau, le soir.
Radio X.